Vous êtes sur RTL.
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. Merci d'être là, fidèle à notre rendez-vous malgré l'heure tardive. Alors exceptionnellement, ce soir, parlons-nous, se prolonge jusqu'à 1h du matin. Et avec la petite équipe qui m'entoure, Vivian Lecuivre à la réalisation de l'émission, Caroline et Paul qui vont vous accueillir et vous guider au standard, on est impatients de vous entendre. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS et sur notre page Facebook RTL-parlons-nous. Bonsoir Florence.
Bonsoir Caroline. Merci de bien vouloir me prendre, c'est sympa.
Vous êtes la bienvenue, hein. Moi je suis là pour, bien sûr que je vous accueille bien volontiers.
C'est gentil, je voulais parler du confinement et puis de tout ce qui a trait au confinement le soir, de plus de sorties, plus de rencontres, voilà, que c'est un peu difficile quand même.
Et oui, on peut même plus faire les troisièmes mi-temps après le match.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Bon. Entre autres choses, hein. Parce que moi je préfère, ouais. Les matchs, je m'en fiche, mais les troisièmes mi-temps, j'avoue que j'aime bien.
Mais bon, il n'y a plus de convivialité et je trouve que quand on est célibataire, c'est dur quand on reste dans son appartement fermé le soir à 19h et je trouve que c'est un petit peu dur quand même, quoi.
Vous savez, pour certains couples, c'est dur aussi, hein, le huis clos du confinement.
Oui, ça peut être difficile si vous ne vous entendez pas, bien sûr. Mais je trouve que pour se rencontrer, pour sortir, le lieu convivial, n'empêche, c'est le bar, hein, on a beau dire.
Mais
hein,
c'est vrai, vous avez raison.
Je trouve que c'est le lieu convivial et tout. Et puis, on ne peut que faire des randonnées, des choses comme ça. Et pas grand-chose, hein, en fin de compte, plus de cinéma.
Pourquoi
puis...
vous ne pouvez plus... Ah oui, on ne peut que faire des randonnées, vous dites. Parce que vous randonnez, vous ?
Oui, mais pas plus de 10 km. Oui, j'habite à Clermont-Ferrand.
Ah, Clermont-Ferrand, c'est beau. Hein.
Oui, c'est joli. Oui, comme la Corrèze. L'année dernière, on était en Corrèze. C'est sympa aussi.
Vous étiez où en Corrèze ?
Vers Brive.
D'accord. Oui. Je connais bien.
Oui. Mais c'est vrai que Clermont-Ferrand, les alentours, c'est super joli.
Ah oui, c'est beau. Il y a de belles balades à faire, certainement.
Ouais. Et maintenant, on est passé à l'UNESCO, le Puy-de-Dôme et tout. Il est super visité. Hein. Ce qui est un peu dommage, je pense, parce que le patrimoine, ça va l'esquinter. Je crois que ça va esquinter les puits. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Il y a beaucoup de monde.
Ah,
ouais.
Mais ça, c'est un peu, oui. Malheureusement, dès qu'une région est un petit peu cotée, et même on le voit dans les différents coins du monde, hein, dès qu'un lieu devient finalement très touristique, pour l'environnement, c'est pas génial. Hein.
Ouais. Mais c'est vrai que.
Les monts d'Auvergne en ont vu d'autres.
Oui, c'est vrai.
On sait pas.
Ouais, je pense, ouais. Mais c'est vrai que avant l'Auvergne était mal connue, était reconnue comme un peu le trou du cul, quoi.
Oui, c'est vrai. On disait ça de la Corrèze aussi, de la Creuse.
Ouais, la
Corrèze.
Il y avait un certain... Et maintenant, vous savez que les gens, ils reviennent aux sources. Il y a beaucoup de gens qui avec les confinements qu'il y a
eu, c'est vrai.
Et qui vont dans les Corrèzes, dans les Creuses, en Auvergne, des Parisiens qui se délocalisent et qui vont dans les campagnes, pas loin de Clermont. Et je vous assure que c'est devenu cher, même à 17 km de Clermont, c'est devenu cher partout. Bah oui.
Mais c'est amusant parce qu'en ce moment, dans le métro, il y a des pubs justement.
Sur
alors non, pas sur l'Auvergne, mais il y a différentes régions. Ils mettent en fait en photo une maison. Alors il y a différents types de maisons et avec le prix, c'est certainement pour l'immobilier. J'ai pas, mais en disant vous en avez marre, vous voulez quitter la ville, et donc il y a la maison, le prix. Et évidemment, quand on est dans le métro et tout, ça fait rêver. Et il y a beaucoup de Parisiens qui du coup ont envie d'acheter des résidences secondaires quand ils le peuvent.
Il n'y a pas que des résidences secondaires. Il y a beaucoup des Parisiens qui s'en vont, quoi, qui veulent vivre en Auvergne. Auvergne oui. ou en Corrèze.
Des Parisiens ou des gens des grandes villes, des très grandes
voilà.
villes en fait.
Des qui, très grandes
c'est
villes.
C'est dur
ouais.
d'être. Enfin, je ne sais pas, peut-être que j'allais dire c'est dur d'être
pas,
confinée.
Vous, votre Corrèze
Bah si, hein, parce que là, c'est vrai que j'y suis pas allée beaucoup. Pour tout
ouais,
vous dire,
ce que j'avais
c'est vrai.
Dit.
Bah oui, forcément.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est joli
bien
quand
sûr
même
que ça
la
manque.
Corrèze.
Bien
ouais.
sûr.
Je trouve que bah, beaucoup de gens, des fois en vieillissant, bah, ils retournent aux sources souvent. Souvent, hein.
Oui.
J'ai remarqué.
Mais je dois pas être assez 50... vieille encore.
Peut-être. Ou peut-être
mais
que
ça
vous êtes trop
vite.
Ah, voyez, ça viendra peut-être.
Bon, dites-moi, mais cela dit, c'est peut-être un bon plan pour vous, ma chère Florence.
Si le dites, célibat
oui, vous allez peut-être voir arriver des Parisiens, débarquer.
Ouais, non, mais c'est... Je trouve que... Bon,
et donc, c'est l'occasion, ça va un peu faire un appel d'air.
Peut-être.
Vous randonnez toute seule
Non, avec des groupes de randonnée, des choses comme ça. Mais il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes
ah bon
que d'hommes là-dedans. Ah ouais.
C'est étonnant parce que c'est quand même assez physique, la randonnée.
Ouais. Et ben oui, mais bon, il y a plus de femmes que d'hommes. Et on ne sait pas où sont les hommes. C'est vrai que c'est... je trouve que je ne sais pas. Peut-être le bar du coin, en train de prendre une cuite.
Ah oui, d'accord.
Je ne sais pas, mais on se demande... Où sont passés les hommes, ouais, c'est vrai que...
Et surtout les que hommes vais... se demandent pareil pour les femmes, hein. J'imagine ceux qui nous écoutent tout seuls, chez
oui.
eux, là. Bon.
Oui, ben, je sais pas, mais...
Non, mais les lieux de rencontre, c'est vrai que, on dit, il y a les lieux de convivialité, le fait
bar.
D'être le bar, être un peu
bien
en
sûr.
Terrasse, les petites brasseries...
Voilà, les petits sûr. Bars de quartier, alors, c'est, oui. c'est sympa.
Oui, c'est vrai que c'est sympa, on rencontre,
ouais.
il y a une vie de quartier.
Et ben je peux vous dire Clermont-Ferrand quand je vois et tout c'est complètement mort sans restaurant sans bar mais c'est mort de chez mort là c'est mort de chez mort quoi.
Ben c'est
on
partout
pas...
hein.
Ouais c'est partout.
Et ça fait
hein.
même bizarre de passer je vous assure dans certains coins de Paris où c'est triste quoi de voir toutes ces
voilà,
aventures fermées.
C'est difficile et puis de vivre ça tout seul. Moi l'année dernière j'étais toute seule au mois de mars aussi c'était difficile. Bon, avec les amis, on s'appelait des amis couples et tout. Mais c'est vrai que c'est super difficile, vous dites. Mais punaise, qu'est-ce qui nous attend après, quoi?
Bah, qu'est-ce qui nous attend, Florence? Vous imaginez pas? Quand on va sortir de tout ça,
les gens
ça
vont
va être
s'embrasser.
La folie. Mais ça va être quasiment mais... orgiaque, moi, je pense. Les gens sont tellement en manque de tout. Ça va être la débauche.
Manque de tout, ils vont dépenser de l'argent. Je sais pas. Je sais pas s'ils
ah bon
auront de la retenue. Mais je sais pas, moi je sais pas. Ils auront peut-être de la retenue. Je sais pas. Parce qu'ils seront traumatisés de ce qui s'est passé là.
Pas sûr. Je crois que les pulsions de vie reprennent le dessus.
Peut-être, ouais. On oublie
après,
vite.
Après la peste et tout, il paraît qu'il y a eu des épisodes, je dis volontairement un peu orgiaques, mais des choses où tout le monde se débridait complètement, quoi. Parce que c'était
bah,
à nouveau
mieux,
la vie qui
si
reprenait
gens,
le dessus.
Ben, c'est peut-être pas plus
donc,
mal.
Donc l'été va peut-être être torride, Florence.
Je vais rencontrer pas... l'homme de ma vie.
Dans les monts d'Auvergne vont se remettre en éruption. Ça va être volcanique du côté de chez vous, je sens.
Ça va être super. Ouais, grâce à vous, je vais
ah,
dire
grâce
que c'est
à moi,
super.
Non. Grâce, je sais pas, au vaccin, si dès qu'on pourra, vous allez voir. Je pense que ça va être... ça
ouais,
va être une ambiance.
Ouais.
Ça va être la liesse générale.
Moi, je pense que de toute façon, c'est... avoir une ambiance. Cet été, les gens vont sortir beaucoup plus. Et dans les campagnes, les gens sortent beaucoup plus. Hein.
Oui, c'est vrai.
On s'aperçoit qu'ils ont besoin de campagne. Mais la ville, il n'y a plus rien à faire. Alors, pour se ressourcer, moi, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est la campagne, quoi.
Ben, je trouve qu'en plus, il y a l'été, c'est très agréable parce qu'il y a beaucoup de fêtes.
Ouais.
Il y a beaucoup de fêtes votives. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui reviennent, même qui étaient partis un peu partout, en France, mais aussi auparavant, avant tout ça, aux quatre coins du monde,
oui.
qui reviennent dans leur famille, et il y a énormément de fêtes, de repas paysans, des choses comme ça, dans des grandes halles, où il y a, enfin, on parlait d'un temps d'avant, mais c'est très animé, autant la campagne l'hiver, c'est un peu tristoun, il faut bien le dire.
Ouais.
L'été, il y a une vie, je trouve, et un rapprochement entre les gens.
Et ben, qui n'est pas le même, moi.
Oui,
c'est
vrai.
C'est vrai. qui est pas du tout le même que quand c'est l'hiver, les gens sont beaucoup plus fermés. C'est pas du tout pareil. Mais je pense que l'Auvergnat, il est un peu fermé quand même. Il y en a qui le disent, mais je pense qu'on est un peu.
Oh, vous savez.
Il y a des gens partout, bien et pas bien, partout, je pense.
À Paris, il y a plein de. Justement, on parlait des bars, c'est quand même, c'est connu, qui sont connus par des Auvergnats, hein, qui sont tenus par des Auvergnats.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, il y en a beaucoup à Paris. Hein.
Oui, je sais, ouais. Ouais, c'est vrai que.
Non, après, Paris... c'est pas une question. Enfin, moi, je me méfie un peu. L'Auvergnat est comme ci, le Corrézien est comme ça, le Corse est comme ça.
Ouais, je crois qu'il faut pas. Oui, oui.
Mais dites-moi, il reste quand même les. Bon, il reste les sites de rencontres.
Ah,
est-ce que, comment vous faisiez avant, alors j'ai bien compris, vous voulez pas le dire, mais on a compris que vous écumiez un peu les bars pour sortir de votre célibat.
Non, quand même, ça fait un peu alcoolique. Non, non, pas du tout. Mais je faisais des sorties quand il y avait des petits concerts. Dans
oui,
les bars, c'est sympa.
Oui, c'est tellement agréable.
Mais avant, oui, effectivement, j'ai essayé les sites de rencontres, mais je trouve que c'était pas pour moi. Parce que j'attirais pas les bonnes personnes, je sais pas. Je savais pas voir la personne qui. J'arrivais pas à voir si c'était une bonne personne et tout.
Vous êtes fait avoir un peu
Oui.
Vous avez eu de mauvaises expériences.
Ouais. J'ai une mauvaise expérience, du coup. Le speed dating, on n'en parle pas, je trouve que c'est
ça
très jeune.
Ça se fait plus trop, ça, hein. Si, ça se fait plus.
Ouais, mais. J'ai vu qu'il y avait encore là sur Internet, mais je trouve que les sites de rencontres, c'est trop de la grande consommation à n'importe quoi.
Ah oui.
Oui, je trouve. Je trouve que et puis il y a beaucoup d'hommes mariés, il y a des qui le disent pas. Enfin, je trouve que.
Mais dans la vie aussi, hein.
Eh ben oui, bien sûr. Mais je veux dire. Je sais pas, j'y trouve pas naturel.
Parce que dans la vie, vous... Enfin, dans la vie, c'est idiot, parce que le site de rencontre, c'est la vie aussi, c'est juste un moyen de se rencontrer.
Mais je trouve que c'est pas naturel, c'est pas naturel. Vous avez raison de dire que dans la vie et dans les sites de rencontre, c'est pas du tout pareil.
Non, mais vous semblez dire que, au vu de... Vous avez malheureusement eu des mauvaises expériences, et que vous n'arrivez pas à voir, au fond, si c'est quelqu'un de bien en face de vous. Ce que je voulais dire, c'est que dans les rencontres qu'on peut faire dans la vie courante, vous avez davantage un radar, parce qu'on peut se faire avoir aussi, hein.
Oui, je me fais avoir aussi. Je me fais avoir aussi.
Ben oui, finalement.
Je pense que j'ai pas su des fois discerner. Et après, vous vous sentez, vous avez plus envie, quoi. C'est vrai que je me disais oui, les sites de rencontre, il faut peut-être payer. Puis en fin de compte, vous payez, vous avez les mêmes personnes, hein. C'est à vous de percevoir et de servir de son ressenti. Si vous dites, moi j'ai trouvé que quand je faisais les sites de rencontre, j'allais dans les bars, mais j'écoutais leurs doléances aux hommes. Oh, moi j'en avais un peu marre, quoi.
Ah oui, vous en avez beaucoup qui avaient besoin d'une oreille, finalement.
Oui.
A priori, on se disait, c'est pas forcément ce dont ils ont besoin en premier, mais si, ils avaient besoin d'écoute.
Ouais, ils avaient besoin d'écoute, et puis des fois c'était un peu lourd leur passé. Et des fois, moi, ça me gênait. Je dis, mais il faut faire une thérapie. Moi, je me permettais de leur dire, quoi. Et après, ils disaient, on se revoit. Ben non, j'avais pas envie, quoi.
Et oui, parce que c'était senti bien. Mais ils n'avaient pas, ils ne mesuraient pas. Mais ils ne mesuraient pas que finalement, ils vous avaient fait d'emblée porter beaucoup de choses trop lourdes et que.
C'est ça.
Et que vous disiez, oh là là, dans quoi je m'embarque. Eux, ils s'étaient sentis bien, finalement. Ils avaient apprécié ce moment, mais...
Je sais pas, parce qu'il y en a qui partaient, qui disaient « Ouais, salut, c'était sympa, mais on se revoit pas. »
Oui, mais ça va un peu à l'encontre. C'est intéressant ce que vous nous dites, Florence, parce que on entend beaucoup de personnes, de femmes dire « Bon, je me suis fait avoir, au fond, ce qu'ils voulaient, c'était une rencontre d'un soir. » Et là, vous dites, au fond, ça arrive aussi, mais vous dites, vous, ce qui vous a marqué, c'est qu'ils avaient envie de s'épancher. Ils avaient envie de parler, au fond.
Ouais, mais je trouve que c'est pas glamour pour un homme c'est... moi, je trouve
ni
pas
pour
ça
une
glamour.
Femme, hein, je pense. Si on en dit trop d'emblée, au fond.
Si on dit, par exemple, des choses qui... je pense que c'est vrai que ça donne pas envie, quoi. Ça peut faire peur, quoi.
Ça peut faire peur, surtout.
Et je pense que on est...
Je trouve que justement les sites de rencontres, ça met une pression. On se fait joli, le rendez-vous. Je sais pas, c'est pas naturel comme si vous rencontriez quelqu'un dans
oui,
un
mais enfin, ça met une pression. Enfin, quand on sort, en général, comme vous dites, on se fait joli si on va... bon, hormis si on va, effectivement, le petit bar du coin prendre son café, on n'y va pas, voyez, pomponner. Ah. Mais souvent, c'est un peu comme quand on va dans une soirée, on s'apprête un peu, non?
Oui, oui, tout à fait. Ah. Mais là, moi, je trouvais que... Et ben, comme j'avais beaucoup d'échecs, et ben du coup, je me disais ouais, c'est pas pour moi. Enfin, et je voyais que ça me donnait une mauvaise estime de moi, ces hommes-là.
Ah bon ? Et pourquoi ?
Ouais. Et ben, je pense que je me disais ouais, t'es trop vieille, t'es trop honte, t'es trop ci, t'es trop là. Je me trouvais toutes tes mauvaises qualités.
Mais c'est quand vous les rencontriez ou quand il y avait les critères un peu sur le site, ce qu'ils vous renvoyaient ?
Les critères aussi, ça ne me plaisait pas. Oui. Mais non seulement ça, c'est que je trouvais que les hommes, des fois, ils mettaient la barotte, ils voulaient des nanas, des papiers glacés, quoi. Et ils avaient 50 ans, des fois, ils étaient chauves, ils étaient bedonnants, mais ils ne se regardaient pas, quoi.
Ah ben, on peut rêver, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça sert à ça aussi, oui.
Mais je pense que les femmes, elles sont moins exigeantes que les hommes, quoi.
Ça, je crois pas. Ce ne sont pas les mêmes exigences.
Ouais.
Je pense que vous avez raison de dire souvent, dans ce que j'entends, hein, le retour, les hommes, dans un premier temps, l'exigence porte beaucoup sur l'apparence physique.
C'est ça.
Ou l'âge. Mais quand on entend les femmes parler, l'exigence, elle porte sur d'autres critères. Ça peut être un certain statut social. Certains niveaux de revenus. Enfin, c'est très caricatural ce que je dis, mais enfin, moi, c'est ce que j'entends un peu les retours.
Donc, au fond,
chacun a ses exigences. Hein.
Oui, chacun a ses exigences, et des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde.
C'est très stéréotypé, d'ailleurs, quand on y réfléchit.
Ouais, moi, je trouve. C'est pour ça que je trouve que les sites de rencontres, ce n'est pas le lieu où on peut. Moi, je dis que c'est plus par le réseau des amis. Ils ont des gens célibataires.
Oui, mais les amis, parfois. Alors, ça, parlons-en des amis. Il y a des amis, ils veulent vous caser. Quelle angoisse! C'est vrai, le genre de truc.
Non,
il y en a des
amis,
vous demandent alors, t'es toujours célibataire.
Non, moi, ils n'ont pas de célibataire. Ils ne m'ont jamais fait des coups comme ça parce qu'ils n'en avaient pas.
Ils sont tous mariés, vos amis?
Ouais, c'est ça. C'est très peu de gens célibataires.
Ah bon ?
Alors, c'est vrai que, du coup, ça ferme beaucoup le champ, hein, vision. Hein. C'est vrai que, du coup, je suis...
Oui, voilà, forcément. Parce que c'est vrai que vous avez raison. Par les amis, ça peut être... Ils vous présentent parfois des collègues de travail ou des gens dans une soirée. Mmh. Ça peut être sympathique ou des amis. Mais bon, si effectivement, c'est un peu... Dans votre groupe là, de randonnée, il n'y a pas des femmes qui sont célibataires ?
Mais bon, je trouve que ça reste très très superficiel aussi. Les gens,
on peut pas marcher et parler en même temps. Hein. Ouais, faut vraiment déjà avoir une condition physique. Enfin, moi, quand je marche, je peux vous dire, j'ai une copine qui fait de la marche rapide avec des bâtons. Elle discute, mais moi, je souffre comme un bœuf à côté. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que des fois, ça. Ça manque de convivialité, parce qu'il y en a qui sont à fond, là, dans leur truc.
Bon, alors dites-moi, et Florence, vous disiez, où sont les hommes ? Où sont les hommes ? Voilà. Il doit bien avoir quelques-uns sur RTL ce soir à l'écoute. 09 69 39 10
11. Ah, c'est gentil,
comment
Caroline.
Vous faites pour faire des rencontres, vous ? Et puis alors, finalement, on parlait des attentes ou des exigences. Vous avez bien quelques petits critères, vous aussi ? Parce que tant qu'à faire, je suis en train de faciliter les choses. Là.
Je vais avoir des critères. Ben oui,
Caroline et Paul vont s'arracher les cheveux encore parce que du coup, le standard va sonner. Mais
quels sont
vos critères tant qu'à faire ? On va faire des malheureux.
Mes critères. J'ai envie d'un homme jusqu'à 55 ans.
Oh là là, pas plus ! Bon, alors je veux pas. Ça se fait pas normalement de demander votre âge, mais oui, vous. Pas plus de 55
ans. Moi, j'ai 53 ans. J'ai 53 ans, Caroline.
Donc, pas trop de différence. Pas plus de 2 ans de différence.
47, 48, 55.
Tiens donc. D'accord. 47, 55, c'est très précis.
Ouais, voilà. Quelqu'un de gentil. Moi, je veux quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui est malhonnête,
j'en ai pas besoin. De pas marié, si je... déjà.
Ah ben voilà, ce que ça veut dire, pas marié. D'accord. Et pas alcoolique, hein, toxico-alcoolique, j'ai donné, j'ai fait
bizarre,
beaucoup d'infirmières.
Hein, oui.
Et je crois
oui,
que...
Oui, mais en même temps, vous faites beaucoup de rencontres dans les bars, donc...
Non, pas toujours, pas toujours, ça n'a pas tout le temps été dans les bars. Non, mais quelqu'un de... qui a de la bienveillance, comme moi, que j'ai de la bienveillance pour eux, qui est quelqu'un de bienveillant. Moi, j'ai envie de quelqu'un de bienveillant. On parle de bienveillance, oui. Mais... Voilà, moi je pense que je suis quelqu'un
de prévenant,
de bienveillant.
Quoi, d'attentionné.
Ouais, ouais, de... d'attentionné.
D'accord.
Voilà, qui aime la randonnée, qui aime le cinéma, qui aime vivre quoi. Qui aime aller à des concerts, qui aime. Voilà, c'est vrai que.
Et qu'est-ce
ça,
que
c'est...
vous finalement vous êtes célibataire depuis combien de temps, Florence?
Un an.
Un an. D'accord. Mmh. Vous êtes séparée donc depuis peu finalement.
Ouais, mais bon, c'était une relation. Eh ben, je l'avais connu dans des randonnées, cet homme.
Ah, vous
et après, il m'a dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie.
Ah, alors que coup, vous aviez commencé une relation avec lui.
Tout à fait. Ouais. Ouais, ça a duré 3 mois, ouais. 3-4 mois. Et ouais, il était. Ouais, je pense que ça m'a pas plu. Et puis voilà quoi. J'ai
oui, c'est
j'ai
pour dit, ça que bah, vous écoute... me parlez d'honnêteté. C'est-à-dire que vous avez été
meurtrie. Ouais, moi je pense que je veux quelqu'un de droit et honnête parce que je suis droite dans mes bottes quoi. J'ai pas du tout envie de gens malhonnêtes quoi. C'est normal hein.
Bah, monde... a priori, c'est rare qu'on lance un appel en disant je recherche un escroc.
Voilà, un bad boy.
Du moment qu'il est très séduisant, bah ça me va. Ah les bad boys, ça peut malheureusement attirer hein. Enfin ça
Ouais, il y en a que ça attire. Moi non mais j'ai pas du tout envie.
Non,
ça,
on sent oui, vous voulez maintenant quelque chose de plus serein.
Ouais,
quoi, de plus
serein, parce que à 53 ans, vous voyez, bientôt 54, vous avez envie de choses sereines, quoi.
Oui,
parce que,
plus simple,
voilà.
Finalement.
Ouais, beaucoup plus simple, parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu des choses un peu compliquées en amour, et j'ai plus du tout envie de ça. J'ai envie de choses douces,
comprends,
on va dire.
Je comprends. On va aller faire un petit tour du côté de la page Facebook pour voir où sont les hommes.
Il y a Hello qui propose, ils sont au stade Michelin, les hommes, qui est le stade Clermontois, en fait, le stade du stade Clermontois.
Ah, ils sont pas mal, c'est vrai qu'ils sont pas mal.
Les dieux des stades, mais il n'y a même plus de public. Même plus aller au stade.
Et oui, c'est ça le problème.
Il y a Florence Duvar, célibataire aussi, elle précise, elle dit où sont les hommes, où sont-ils? Pas facile, les sites à l'extérieur, tous masqués. Non, c'est pas évident, je crois que notre célibat va encore durer. Un peu fataliste, Florence. Il y a Liliane, si elle aime la campagne, pourquoi est-ce qu'elle ne s'inscrit pas à l'amour et dans le pré?
Mais
c'est vrai, mais elle a raison.
Non, du tout. Non,
et
pas
pourquoi
du tout.
Pas du... Bah, il y en a qui sont pas mal, hein, franchement. Moi,
il y en a qui sont pas mal, mais bon, je sais pas. J'aimerais pas passer à la télé.
Ah,
autant
d'accord.
J'aime la
oui,
radio.
Ça, je vous comprends. Mais il y en a en privé, on se dit, tiens, voilà, on va appeler. J'aimerais bien appeler Karine, dire si elle pouvait me mettre en contact.
On va essayer de trouver ça, l'étage du dessus, tout ça, on va se débrouiller. Il y a Nancy aussi qui dit, depuis le Covid dans les villages, les comités des fêtes ne se réunissent plus, toutes les fêtes sont annulées, ça devient un peu triste. Nous ici en Bretagne, la fête des battages a été annulée, plus le pressage des pommes, plus rien du tout. Et alors, moi, c'est petit conseil, en ce moment, c'est un peu la meilleure période pour rencontrer des personnes libres, parce que mes amis célibataires, qui rencontrent des gens sur les sites de rencontres, ils font leur premier rendez-vous où? Comme il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar.
Et ben, chez l'un ou chez l'autre.
Ils font chez l'un ou chez l'autre. Ils passent la soirée chez l'un ou chez l'autre.
Ah, la première fois.
Et ouais. Et donc en fait,
jamais le premier soir.
Alors, non, mais donc, mais au moins comme ça, si vous allez chez lui, vous voyez s'il a une femme ou pas.
C'est
le meilleur moyen de savoir si la personne est disponible, vraiment.
C'est vrai, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là.
Faut me demander.
Mais j'ai pas vu sous cet angle-là, c'est vrai. Voilà. Moi d'accord. Non plus.
Dans les parcs aussi, on voit des gens un peu pique-niquer dans les parcs.
Ouais. Moi, je pense que dans les parcs,
C'est vrai qu'elle
c'est
dit.
Pas mal.
Mais bon. Bon, écoutez, l'appel est lancé, ma chère Florence.
Jean-Marc, merci beaucoup.
C'est un bon spot ici pour faire des rencontres, vous savez. Donc,
D'accord.
C'est ça. Et là, où est-ce qu'il y a de la convivialité, de l'échange, du partage? Sur RTL. Donc, 09 69 39 10 11. Vous nous avez dit beaucoup de choses sur vous. Vous avez parlé de votre désir de partage, de simplicité, de douceur. S'il y a des messieurs intéressés, on se fera un plaisir de vous transmettre les coordonnées.
Je vous remercie
bonne
beaucoup.
Bonne chance, Florence.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Bonne soirée à vous.
RTL, Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Alerte enlèvement. Mia Montemaggi, fillette de 8 ans, de type européen, mesurant 1m30, yeux bruns, cheveux longs et bruns avec une frange. Porteuse de petites boucles d'oreilles en or avec un dessin rouge. Habillée d'un pantalon noir, d'un t-shirt, d'un gilet gris zippé avec des points dorés. D'une doudoune blanche avec des pois noirs et une doublure en fourrure blanche, a été enlevée à l'Époulière, dans les Vosges, le 13 avril 2021 vers 11h30 par trois hommes de type européen. Deux âgés entre 25 et 35 ans, dont l'un serait porteur d'un tatouage en forme de croix au niveau du cou, et un troisième âgé de 45 à 50 ans. Ils sont susceptibles de circuler à bord d'un véhicule Volkswagen de type transporteur gris anthracite. La fillette pourrait être accompagnée également de sa mère, Lola Montemaggi, qui n'a pas le droit de la voir seule, âgée de 28 ans, 1m70, très mince, cheveux châtain clair mi-long, deux tatouages étoiles à l'intérieur d'un poignet, susceptible de circuler à bord d'un véhicule Peugeot 207 noir, immatriculé BZ370GZ. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 0800 36 32 68 ou envoyez un courriel à alerteenlèvement@gendarmerie.intérieur.gouv.fr.
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Oui, parlons-nous encore pendant une heure, puisque ce soir, en raison de la soirée foot qui s'est prolongée, nous sommes exceptionnellement avec, à vos côtés jusqu'à 1h du matin. Cela vous laisse du temps pour appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé. Alors si vous avez du mal à trouver le sommeil, si des questions vous tourmentent, passez-nous un petit coup de fil. On est là pour vous apporter un peu de réconfort. Et puis bien sûr, vous pouvez réagir à tout ce que vous entendez, au témoignage de Florence qui demandait mais où sont les hommes et qui parlait de la difficulté de faire des rencontres en période de Covid et de confinement. N'hésitez pas à nous laisser des petits SMS au 64 900 en les commençant par les trois lettres d'RTL, 35 centimes par SMS, ou encore à nous écrire sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Des messages qui sont arrivés, parce que je constate quand même que ce sont beaucoup des femmes, des auditrices qui ont réagi au témoignage de Florence, qui donnait des conseils d'ailleurs assez pertinents. Mais où sont les hommes ?
Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'hommes ce soir. On a beaucoup de femmes. Il y a Béatrice.
Il y a eu le foot en même temps. Voilà
oui,
où ils sont. Ah, c'est énervant.
Oui,
ils dorment après. C'est comme après l'amour. Voilà. Ils sont crevés. Ah. Ils ont regardé le match de foot
en
et ils dorment. Une tisane.
Faites un peu ça.
Ah oui, bah.
Bah oui.
D'accord.
On ne peut pas tout faire en même temps.
Ah non, ça, les hommes, non, non, vous ne faites pas tout en même temps.
On a constaté. Une bière dans la main, le téléphone dans l'autre, c'est compliqué.
C'est ça, c'est compliqué.
Il y a Béatrice qui dicte ses messages depuis son taxi, d'ailleurs. Elle les dicte à l'oral.
Ah.
Bah oui, qu'on se rassure. Elle vient de finir, Béatrice, elle rentre. Donc
ah,
on lui souhaite une
bien.
Bonne route.
Bonne route et bon repos.
Et on embrasse tous les taxis. Elle dit, bah longtemps, moi, que ça fait longtemps que je ne vais plus sur les sites de rencontres. Mauvaise marchandise, elle dit. C'est mauvais. Les hommes bien sont casés.
C'est
terrible. Elle dit, les hommes bien sont casés, c'est bien normal, mais je fais confiance à la vie et pas de problème. Il y a Florence qui dit, ah, moi aussi, Florence, 59 ans, je cherche une sérénité. Elle dit, pourquoi pas une émission spéciale célibat ?
Ben, on fera ça, c'est quand
à la Saint-Valentin, ça va, on se mouille pas trop.
Et oui, en plus, j'ai pensé à ça, zut,
oui,
c'est
voilà.
Passé. Mais bon, on fera ça, je sais pas, on va y réfléchir. Tiens, on va trouver une date.
Très bien.
Dès qu'on va sortir du confinement. 14 juillet, pour
14
les balles.
Le feu d'artifice.
Voilà, le feu d'artifice.
Exactement. Et il y a JP, on cherchait des hommes, il y a JP, il dit, ben moi j'ai tous les critères. Mais je suis hors tranche, j'ai 57 ans, perdu.
Bien vu.
Voilà.
Oh, quand même, 55, 57, ça change pas grand-chose. S'il veut, il laisse son numéro de téléphone, on transmettra bien volontiers, il fera une petite exception, je pense, Florence. Allez, on va écouter un petit peu de musique et après, nous accueillerons Marie et on changera complètement de sujet parce que Marie va nous parler de ses petites filles. Elle craint que ces dernières soient victimes de violences.
RTL, Caroline Dublanche.
Parlons-nous. C'est beau ce duo, Mélodie Gardot et Sting, ça donne envie d'être amoureux. Little Something.
RTL,
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Mais justement, en parlant d'amour et de rencontres difficiles en temps de Covid, il y a Sergio qui dit alors, et la foire aux célibataires à la jeune Touze, ça marche, ça n'existe plus? Et alors, c'est pas une blague, les amis. Ça, il y a réellement, on a parlé, il y a eu des reportages, on ne l'a pas inventé, ça peut pas s'inventer, une foire aux célibataires à la Genétouze. Voilà, bon. Donc, je pense que la foire, actuellement, les rassemblements de plus de, quoi, 6-10 personnes sont interdits. Donc là aussi, il va falloir attendre. Mais alors, qu'est-ce que ça va être la prochaine foire Genétouze en folie? Bonsoir Marie.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Merci.
Alors Marie, je disais que vous êtes inquiète concernant vos petites filles.
Oui, parce que j'ai mes petites filles depuis hier soir. Je les ai ramenées ce soir chez leurs parents.
Oui.
J'ai la grande, elles ont 4 ans et 2 ans, et la grande ne voulait pas repartir chez ses parents. Elle avait peur de sa mère et de son père. Ah et bon. Elle m'a dit qu'on lui mordait le doigt et qu'on lui mettait des coups de pied dans le ventre. Donc, c'est un couple qui est déjà violent, mais entre eux.
C'est votre fils, c'est votre belle-fille?
C'est mon fils. C'est mon fils. Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Sa compagne n'a fait que l'humilier donc, avec des violences psychologiques et aussi physiques. Pour moi, c'était dans le couple, mais j'ai quand même lancé une procédure pour violence conjugale, mais en anonyme, parce que j'avais peur de...
Oui. Comment avez-vous fait d'ailleurs pour quand parce que pour les enfants, on va en parler, il y a le signalement au 119 qu'il est possible de faire de façon anonyme, mais quand il s'agit pour signaler au sein du couple, vous avez appelé le numéro
Non, je suis allée au départ déposer deux mains courantes à 15 jours d'intervalle.
D'accord.
Ensuite, j'ai été suivie par la psychologue de la police pendant 3-4 séances.
Oui.
Et elle m'a conseillé d'aller voir une association qui s'occupe de violences conjugales.
Ah oui,
donc j'ai
d'accord.
Eu un rendez-vous là-bas.
Très bien, oui.
Et là-bas, moi, je suis allée seulement titre de conseil, mais elle m'a dit, moi, en entendant ça, il ne faut pas laisser les choses comme ça. Donc, elle m'a conseillé de lancer une procédure en tant qu'anonyme, évidemment. Enfin, évidemment. Pour ne pas avoir de soucis, quoi.
Mais c'est ça. Enfin, alors, vous avez... Parce qu'une lettre, par exemple, au procureur de la République, ça ne peut pas être anonyme. Donc... Vous avez contacté le numéro des violences conjugales?
Non, c'est l'association. Quand je suis à l'association, j'étais reçue par l'assistante sociale
oui,
qui s'occupe des violences conjugales.
D'accord.
Et c'est elle qui s'occupait de faire la procédure
oui.
Pour moi, en tant qu'anonyme.
Je comprends. Et c'est récent, votre démarche, là?
Ça date du mois de juillet.
Et qu'est-ce que ça a donné? Vous avez...
La première fois que je suis allée voir l'association, c'était le 23 mars. Après, oui. Bon, avec les problèmes du contexte Covid, ça a pris du retard.
Oui.
Et là, ils ont commencé à avoir des entretiens au mois de novembre. Ils ont déjà eu 3 entretiens. Et lors du 3e entretien, l'assistante sociale a fait la gaffe en disant que c'était moi, la mère.
Ah fils. Bon?
Oui, voilà. Donc, c'était
ah oui, mais c'est plus qu'une gaffe, là.
Voilà, enfin, je leur en veux, mais après...
Oui, je comprends. Oui, parce qu'il y a un respect de l'anonymat. Enfin, oui, voilà. C'est.
Alors, mon fils qui était revenu chez moi pendant 2 mois et demi, et ben suite à cette bourde de l'assistance sociale, est reparti là-bas avec ses filles.
Oui. Donc c'est ça a des conséquences lourdes parce qu'il était venu chez vous, votre fils, si c'était
voilà,
avec les petites.
Oui, entre Noël et Nouvel An, il y a rien. Moi et ses filles, parce que ça se passait plus bien du tout. Mais depuis 6 ans de relation, ça fait un peu que ça, hein, quand même. Il y a eu plusieurs breaks comme ça, enfin, on va dire breaks, mais.
Mais jusque-là, vous saviez qu'il y avait de la violence au sein de ce couple,
oui. Mais
les enfants, vous n'étiez pas préoccupé pour les petites.
Non, j'en parlais quelquefois à mon fils en demandant s'il n'y avait pas de danger pour les filles. Donc il me disait que non, que sa compagne était violente envers lui, mais pas envers les filles. Et moi, j'étais sur la compagne, je craignais la compagne.
Parce que c'est elle qui est surtout violente vis-à-vis de votre fils.
De mon... Oui, oui, c'est dans ce sens-là. C'est la compagne qui est vraiment...
C'est des humiliations, c'est des violences psychologiques, c'est ça? Ou c'est aussi...
Il y a eu physique aussi.
Il y a eu physique, d'accord.
Oui, oui, elle a coursé avec un couteau, elle a failli plusieurs fois...
Elle a coursé avec un couteau?
C'est comme ça que j'ai déposé des mains courantes, moi.
Bah, vous avez bien
lui
fait.
Aussi, d'ailleurs, elle en déposait...
C'est très grave, enfin, elle est malade. Mmh. Enfin, il y a quelque chose là. Et les enfants peuvent être témoins de ces scènes?
Eh bien, c'est pour ça que j'ai lancé la procédure... anonyme avec l'aide de l'association, parce qu'il y a quand même des violences psychologiques pour les filles, puis on ne sait jamais le couteau. Enfin, on sait jamais ce que
c'est. Et la maman de ces petites filles, alors, elle est où?
Elles sont ensemble. Hein.
Ah, mais d'accord, parce que vous me parlez de la compagne, j'ai cru que c'était un...
Ah, la maman, la maman, elle est fâchée avec.
Non, mais attendez, votre fils, enfin là, il est avec une nouvelle compagne qui n'est pas la mère des petites.
Non, non, c'est pas une nouvelle compagne. Là, c'est la même. C'est la maman des petites.
Mais pourquoi vous dites qu'il est fâché avec?
Non, je croyais que vous parliez de la mère de la compagne.
Ah, et... d'accord. Donc, non, c'est bien le couple des parents. Pardonnez-moi. Oui. Non, c'est moi qui ai mal compris. J'ai cru que votre fils était séparé et qu'il y avait donc une mère, ce qui aurait été bien quelque part, qui peut-être aurait pu aussi vous soutenir dans ses démarches. Donc là, malgré tout, même si votre fils a été informé des démarches que vous avez faites, vous me dites que pendant quelques jours, vous avez eu vos petites filles. Il a de 4 et 2 ans. Elles étaient chez vous.
Voilà, il s'est fâché, il est reparti. J'ai quand même pu avoir mes filles un petit peu après. Et là, je les ai depuis hier soir. Je les ai ramenées ce soir. Je ne pouvais pas les garder, donc je les ai ramenées ce soir chez mes parents. Et j'ai la grande de 4 ans qui s'est mise à... Elle s'effondre en pleurs, mais à un point que je n'avais jamais vu, en me disant qu'elle avait peur, qu'elle ne voulait pas retourner, qu'elle voulait rester chez moi.
Oui, ça ne va pas du tout.
Elle a dit, j'ai peur de maman et de papa.
Et c'est là où elle vous dit, me mord le doigt et...
Oui, parce que j'ai essayé d'en savoir plus. Et elle me dit, papa, il croque. Mais moi, j'avais compris, il craque. Donc, je lui dis, papa, il pleure, il craque. Enfin, elle me dit, non, il croque mon doigt. Donc, je lui ai demandé de me faire ce qu'il lui faisait. Donc, elle m'a fait la même chose. Elle a pris mon doigt, elle l'a mis dans sa bouche, elle l'a mordu.
Elle ne peut pas inventer à 4 ans. Hein.
Voilà, c'est ce que je me dis.
Vous les avez eus là avec vous, donc vous les couchez, vous leur donnez un bain, vous n'avez pas constaté cette fois-ci ou d'autres fois des marques suspectes sur leur corps?
Non, je suis vigilante là-dessus, hein, puisqu'on sache déjà qu'il y a des violences conjugales, je fais attention, et non, j'ai jamais rien vu.
Vous n'avez jamais rien vu?
Non, et je leur donne le bain, hein, donc je fais attention. Hein.
Oui, vous les voyez nus.
Je fais attention extrême, oui.
Elles n'ont pas de... Quand vous les prenez pour les mettre dans la baignoire, il n'y a pas de douleur? Elles n'ont pas de...
Non.
Elles n'ont pas de douleur? Il n'y a pas de point douloureux
Non, si je les touche, je ne vois rien et je ne vois pas non plus qu'elles soient mal quand je les porte ou quoi que ce soit.
Elle vous a dit, il croque le doigt, papa croque le doigt, et vous me parliez aussi de ventre.
Oui, et elle m'a dit qu'elle avait aussi des coups de pied dans le ventre. Alors, je ne sais plus si elle m'a dit un ou des, mais elle m'a parlé de coups de pied dans le ventre.
Elle a dit qui faisait cela?
Elle a dit que c'était mon fils. Elle a dit, maman, elle court après papa avec un couteau et des ciseaux. Elle m'a dit, maman, elle court avec papa avec des ciseaux en lui disant qu'elle va lui couper le bras. Et elle court avec papa. Après papa avec un couteau en disant qu'elle va lui mettre dans le ventre.
Non, c'est insupportable. Voilà. Vous êtes dans... Il y a... comment dire? Mais vous avez dû... Enfin, ce soir, les ramener en sachant cela, ça a dû être terrible pour vous.
Oui, alors je les ai ramenés en sachant parce que j'avais rendez-vous chez mon psy, parce que ça fait 3 semaines, je vois un psy depuis 3 semaines.
Oui, je comprends, c'est dur. Voilà.
Et après les séances de psy, ça dure... C'est un psychiatre, ça dure qu'un quart d'heure, c'est rapide. Et donc ce soir, j'avais rendez-vous avec ce psychiatre et puis de toute façon, je devais retenir les filles. Donc j'ai déposé les filles et je voulais absolument parler avec le psychiatre. Quoi. Mais il m'a dit, il faut faire attention avec les enfants. Il m'a dit, essayez de les revoir une deuxième fois et puis de parler plus longuement avec pour savoir ce qui se passe exactement.
Et vous allez les revoir quand?
Voilà, je vais demander à mon fils demain. Je vais essayer de les avoir rapidement parce qu'elles ne font pas l'école en ce moment. Donc... Ma petite fille m'a dit, je veux retourner à l'école chez toi. Donc c'est...
Bon, la petite, ce qu'elle vous décrit, sa mère qui poursuit son père avec un ciseau, je sais pas, ou des couteaux, enfin, elle veut lui couper le bras.
Le couteau dans le ventre, c'est ça.
Votre fils vous en a parlé de cette scène-là?
Oui, parce que c'est déjà arrivé deux fois au mois de juillet.
Bon, la petite, donc, vous voyez là qu'elle n'invente rien.
C'est ça, oui. Exactement.
Ça ne sort pas de son imagination.
Tout à fait.
Puisque là, déjà, vous avez sur ce fait-là confirmation qu'il s'est malheureusement réellement produit.
Oui.
Et on... alors, et la petite, elle a cette scène en tête.
Bah oui.
Elle vous en parle.
Oui. Oui. Et puis j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse mentir. Enfin, elle ne peut pas inventer, même en ce qui la concerne, elle, je ne la vois pas inventer un truc pareil, quoi.
Ce qui est préoccupant, c'est que de toute façon... elle est dans un contexte de violence. Elle est dans un contexte de grande violence, de scènes extrêmement traumatisantes et de peur. Et au fond, là, ce soir, elle se sent en sécurité quand elle est chez vous et vous dites vous-même, vous ne l'avez jamais vue pleurer comme ça.
Ah non, non, je l'ai déjà vue. Bah, c'est arrivé plusieurs fois où elle a une petite larme en partant en disant « Mamie, j'aimerais bien rester chez toi, mais pour moi, c'est, mamie, c'est différent. » Donc. Mais que là, non, non, c'était des vraies larmes. Elle voulait rester. Elle est arrivée hier soir. Elle n'a pas arrêté de dire que, bon, c'est quelques fois qu'on s'aime. Hein, mais et puis hier soir, elle dit, mamie, je t'aime, je t'aimerai toujours, je t'aime tous les jours, je t'aime toutes les secondes. Enfin, elle n'a pas arrêté de me dire ça. Et puis ce soir, quand je lui ai dit qu'on partait, elle s'est effondrée. Hein.
Oh là là, ça a dû être déchirant pour vous, parce que
ah oui. Ah bah
elle appelle au secours cette petite. Elle demande, elle veut rester en sécurité chez vous. Donc, allez la ramener dans un endroit. Où il y a de la violence, c'est insupportable. Le psychiatre que vous voyez, vous a pas. Il faudrait que ces petites soient, avant de vous demander vous amener, il faudrait que ces petits enfants soient entendus par un pédopsychiatre là. Et
j'ai pensé, il faudrait, mais je sais pas trop comment m'organiser pour ça quoi.
Après, vous avez contacté l'association là, puisque bon. Vous êtes en colère après l'assistante sociale qui malheureusement a levé l'anonymat, mais pour dire bon, là il y a des faits graves nouveaux qui se sont produits. Oui. J'ai eu mes petites filles et voici ce qui s'est passé.
Le psychiatre que j'ai vu ce soir m'a dit ça. Il m'a dit ben essayez d'aller revoir l'association.
Ah, il faut les revoir impérativement là.
Et moi c'est pas bien ce que je vais dire, mais je suis confrontée évidemment que mes petites filles c'est la priorité. Mais en même temps, c'est mon fils. Vous voyez, c'est difficile de défoncer son fils, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut me comprendre, mais... C'est horrible.
Mais votre fils, il a peut-être même sûrement besoin de soins.
Ah bah ça, mais moi, je lui ai dit déjà parce que...
Il a besoin de soins, parce que s'il supporte de telles choses, enfin, ouais. Dans son couple, vous me parlez d'humiliation psychologique. Ouais. Quand on en arrive à ce stade de violence, où finalement, son conjoint vous poursuit avec un couteau... On part, il n'y a plus d'autre choix. Or, s'il reste, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi a besoin d'aide. Alors, j'entends ce que vous me dites. Vous êtes tiraillée entre votre cœur de mère et votre cœur de grand-mère. Mais vos petites filles ont besoin de vous. Parce que ce qui se passe, ça relève de la non-assistance à personne en danger. Alors... J'ajoute tout de suite quand même, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez contacté l'association, il y a des choses qui sont en cours et c'est très courageux de votre part. Et l'association, en sachant qu'il y a de la violence au sein du couple, a pu constater qu'il y avait deux petites filles de 4 et 2 ans. Donc on sait forcément que quand il y a de la violence au sein d'un couple, il y a des répercussions sur les enfants. Donc en fait, vous avez réagi. Et maintenant, je dirais par rapport à ça, j'entends que vous êtes déchiré. Mais votre fils, vos petites filles ont besoin de protection et de sécurité. Elles vous le demandent, elles vous l'implorent. Et votre fils a besoin d'aide, lui aussi. Parce que alors qu'il est dans un tel climat, finalement, malheureusement, il n'est pas en mesure de protéger ses enfants puisqu'il ne sait pas se protéger lui-même. Et il peut être, je ne sais pas ce qui se passe, dépassé. Enfin, si vous voulez, il y a besoin de... Comment dire il ne va pas être amené en prison, votre fils, hein, d'après ce que vous décrivez là. Simplement, lui-même est pris dans quelque chose dont il ne peut pas s'extraire. comme s'il était passif, soumis, au fond, à cette femme. Et il y a quelque chose d'une violente... Alors après, il faut voir, là où je rejoins un peu le psychiatre aussi, c'est que plus l'enfant est jeune, plus au fond, ses propos sont crédibles. Parce qu'il y a des choses qu'un enfant petit ne peut pas inventer. Maintenant, parfois, dans un état de grand... Comment dire? Dans une ambiance où il y a une aussi grande violence qui règne, il peut y avoir, si vous voulez, des choses qui... finalement, parfois, c'est pas le... L'enfant, parfois, protège une personne et ne nomme pas la bonne personne auteur des violences. Ça peut arriver, même petit.
Oui.
Oui, ça peut arriver. Il faut démêler aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire que elle a pu voir des scènes où peut-être que ses parents se sont battus à un moment, des coups de pied échangés, mais c'est comme si c'était elle qui les prenait. Vous voyez, parfois il peut y avoir comme ça une identification, une espèce de... Elle est... À cet âge-là, il faut aussi parfois un peu interpréter. Mais enfin, en tout cas, il n'est pas possible de les laisser dans un tel contexte. Il faut qu'il y ait de l'aide. Il faut que vos petites filles soient protégées. Il faut que votre fils aussi a besoin d'aide. Et je dirais votre belle-fille.
Parce que, c'est ce que je dis, moi, c'est une grande malade, il faut qu'elle se soigne, quoi. On n'est pas méchant comme ça, c'est qu'on est malade, on n'est pas méchant.
Ah, c'est pas de la méchanceté. Non, je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose qui relève plus de la pathologie. Non, on n'est pas dans la méchanceté. Simplement, ça veut dire qu'à un moment, il y a des pulsions qui la débordent. Et malheureusement, quand ça commence, on ne sait pas où ça finit.
C'est ça.
Et que un enfant pris au milieu peut très bien se prendre un mauvais coup. Ce qui vous surprend, c'est finalement... Parce que ce que vous êtes en train de me dire, Marie, je vais vous poser une question difficile, mais au fond, si vos petites filles vous avaient dit « c'est maman qui croque le doigt ou qui donne des coups de pied dans le ventre
»,
qu'est-ce que vous auriez fait ?
J'avais raison, je vois ce que vous voulez dire. Ça aurait été plus facile pour moi.
Ça aurait été plus facile pour vous.
Ah oui. Je sais qu'il faut faire quelque chose, hein, j'en suis consciente, mais enfin, je suis tiraillée, évidemment. Hein.
Mais on voit bien en même temps à quel point vous êtes démunie, et au fond, parce que vous ne savez plus comment faire, parce que en ramenant vos petites filles, je ne sais pas si votre fils et votre belle-fille étaient présents.
C'est mon fils, parce que je ne monte pas, je ne monte jamais, parce que ma belle-fille ne me reçoit pas. Parce que je suis déjà intervenue, hein, forcément. J'ai déjà été là en pleine crise, voilà. Et...
Vous avez été témoin, vous, de crises comme ça?
Oui, c'est pour ça que j'ai déposé une main courante aussi.
Hein. Oui. Si vous êtes témoin à nouveau de ça, vous prenez les enfants avec vous. Vous les amenez avec vous.
Je suis admise là-bas. Hein.
Oui, mais vous... D'accord. Ouais. Mais votre fils, ce soir, finalement, vous étiez peut-être choqué et sidéré, ce qui fait que... Parce qu'au fond, j'ai peur pour toi. Et ce soir, sans... Alors, peut-être, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au fond, vous n'avez pas pu lui en parler. Dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les petites? J'entends des choses qui me préoccupent beaucoup.
Parce que j'en ai parlé. Moi, c'était ma première idée. Parce qu'avant de faire une procédure, je me suis dit je pourrais mettre un ultimatum à mon fils en lui expliquant les choses, en lui disant, soit tu te soignes, mais dès maintenant.
C'est ça.
Ou alors, je lance une nouvelle procédure.
Oui, oui.
Et j'en ai parlé. Bon, le psychiatre, ce soir, il m'a dit, oh ben non, parce qu'après, si... il n'était pas trop sûr de lui, mais il dit, il y a quand même un risque que vous perdiez votre fils et vos petites filles, quoi. Qu'il ne fallait plus vous voir. Donc, du coup, ben, ça remet les choses en cause aussi.
Oui, mais à ce moment-là, enfin, de toute façon, je pense que, étant donné que vous avez fait une démarche auprès de l'association, il faut les rappeler. Il faut les rappeler et leur apporter ces faits nouveaux.
Je ne sais pas du tout où on s'en est. En fait, on n'est pas tenu au courant de ce qui se passe par cette procédure. Et ils ont déjà eu 3 entretiens et je ne sais pas du tout ce qu'il en est.
Oui, ce qui est normal. C'est terriblement frustrant pour vous, mais il y a une enquête, en fait. Et on ne tient pas informé la personne qui signale.
Oui, on m'avait prévenu au début.
Parce que la personne qui signale est d'autant plus, enfin, et quand bien même ça serait des voisins, mais dans le cercle familial, au fond, on n'est pas dans, les personnes ne sont pas dans l'accusation immédiate. Mmh. Elles vérifient. Elles essayent de comprendre ce qui se passe. Mmh. Et vous, là, dans ce signalement, il est important que vous rappeliez, que vous les rappeliez pour parler de ces faits nouveaux, en disant je suis préoccupée pour les petites filles.
Ils vont me dire de porter plainte.
Vous avez peur de ça ?
Je sais qu'il faut le faire, mais oui, j'ai peur. Oui, je suis honnête, j'ai peur.
Mais c'est terrible de laisser vos petites filles dans...
Ah mais non, mais il n'y a pas question que je les laisse, je vais le faire.
Ouais. On va continuer. On doit marquer une pause compte tenu de l'actualité et de l'alerte enlèvement. On se parle tout de suite après.
Merci.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Alerte, enlèvement. Mia Montemaggi, fillette de 8 ans, de type européen, mesurant 1m30, yeux bruns, cheveux longs et bruns avec une frange. Porteuse de petites boucles d'oreilles en or avec un dessin rouge. Habillée d'un pantalon noir, d'un t-shirt, d'un gilet gris zippé avec des points dorés. D'une doudoune blanche avec des pois noirs et une doublure en fourrure blanche, a été enlevée à l'Époulière, dans les Vosges, le 13 avril 2021, vers 11h30, par trois hommes de type européen. Deux âgés entre 25 et 35 ans, dont l'un serait porteur d'un tatouage en forme de croix au niveau du cou, et un troisième, âgé de 45 à 50 ans. Ils sont susceptibles de circuler à bord d'un véhicule Volkswagen de type transporteur gris anthracite. La fillette pourrait être accompagnée également de sa mère, Lola Montemaggi, qui n'a pas le droit de la voir seule, âgée de 28 ans, 1m70, très mince, cheveux châtain clair mi-long, deux tatouages étoiles à l'intérieur d'un poignet, susceptible de circuler à bord d'un véhicule Peugeot 207 noir, immatriculé BZ370GZ. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 0800 36 32 68 ou envoyez un courriel à alerteenlèvement@gendarmerie.intérieur.gouv.fr.
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Et on vous retrouve, Marie. Oui, j'étais en train de réfléchir après vous avoir écouté. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais de prendre l'avis d'un pédopsychiatre. Le problème, c'est que les enfants, vous ne savez pas quand vous les avez, donc vous ne pouvez pas prévoir un rendez-vous.
Voilà, là, c'était hier matin, il m'a demandé de les prendre pour hier soir, et puis ben là, c'est certainement, voilà, c'est deux jours avant.
Ça montre que votre fils, il a confiance en vous.
Ah ben, il dit toujours que si j'étais pas là, il serait plus là non plus, hein, puisqu'il vit.
Pourquoi ?
Par rapport à ces violences conjugales, dès que ça va pas, il vient chez moi, il m'appelle.
Alors, je pense qu'il faut, et votre fils, au fond, il est dans l'incapacité de réagir. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Et je pense que là où vous pouvez vous positionner, je suis pas tout à fait d'accord avec votre psychiatre. Je comprends, il essaie de vous, mais vous êtes sa patiente et il voit votre intérêt à vous. Mais je pense que, étant donné la relation que vous avez avec votre fils, qui au fond demande de l'aide, parce qu'il n'est pas capable lui de se protéger, il vient se réfugier chez vous. Donc il est, il a confiance en vous et je pense qu'il faut lui parler très clairement en disant écoute, c'est plus possible. J'ai peur pour toi et j'ai peur pour les petites. C'est-à-dire que vous vous positionnez à la fois en tant que mère et en tant que grand-mère. Ouais. Voyez.
Mon cœur me dit de faire ça.
Ben suivez votre cœur. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il était venu se réfugier chez vous avec les petites et il est reparti. Pourquoi, finalement, est-il reparti ?
Il est reparti en colère parce qu'il a su que c'est moi qui avais, suite à l'entretien avec l'assistante sociale, quand il a su que c'était
moi. Oui, il a l'impression d'une trahison.
Voilà. Mais il est revenu plusieurs fois depuis.
Mais c'est ça. Il est revenu et il vous a ramené les enfants. Donc, en fait, il sait que vous êtes là, et d'ailleurs il vous dit heureusement que tu es là.
Donc, oui, parce que quand il est, excusez-moi, oui. quand il est revenu pendant 2 mois et demi, il m'a dit, on a beaucoup discuté, tout ce qui se passait depuis le temps que ça dure, et moi, j'avais, enfin moi, puis l'entourage, on avait l'impression que j'en étais vraiment sortie cette fois-ci, parce qu'il disait, c'est comme si j'étais dans une secte, j'étais sous emprise, je me rendais même pas compte de ce que je vivais.
Comment vous expliquez, vous, enfin, que votre fils soit dans une telle situation, finalement, vous qui le connaissez, comment, est-ce qu'il a déjà vécu des relations comme ça très complexes, ou qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que maman, finalement?
Il a vécu des traumatismes, parce qu'en fait, j'ai adopté mes enfants.
Oui.
Et donc, lui, il a fait des recherches parce qu'il a voulu savoir de où il venait. On l'a aidé à faire ses recherches. On
était toujours
d'accord avec lui.
Oui.
On l'a soutenu. Mais au bout d'un an et demi, on lui a dit que on ne pouvait rien trouver du tout.
Il a fait ses recherches quand il était adolescent ou jeune homme?
Quand il avait 16 ans, il a commencé.
Et oui, c'est ça. D'accord. Ouais.
Il devait attendre 16 ans. Je crois qu'il s'était ressaisi de attendre 16 ans. Et puis un an ou un an et demi après, force de contact, on lui a dit non, il n'y a rien dans le dossier. Et à cette époque-là, c'est vrai qu'aux accouchements sous X, les mamans n'étaient pas obligées de laisser quelque chose.
Oui, tout à fait. Et donc, vous l'avez adopté en France, donc. C'était un bébé né sous X, d'accord. Nous l'avez eu tout petit.
Enfants, comme ça.
Vos deux enfants, tout petits. Mmh. Vous étiez en couple à ce moment-là?
Oui.
Oui, j'imagine, parce que les bébés nés sous X, il y en a peu. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous ne parlez pas de votre mari.
Non, je suis divorcée.
Vous êtes divorcée.
On a divorcé, il y a 4 ans.
Donc, vous parlez de traumatisme. Donc, il y a eu cette quête à un moment de recherche des parents d'origine qui a échoué.
Voilà. Et puis comme c'est un enfant d'origine algérienne, il a vécu beaucoup de racisme. Beaucoup. Hein. Enfin, tous les ans, à l'école, il se passait quelque chose.
Ah bon?
Donc, il a beaucoup été, dès la maternelle, hein. Il a été agressé. C'était en primaire, c'était au collège,
c'était
au lycée. Il a que depuis le travail, ils sont mieux de ce côté-là.
D'accord, il travaille et dans son travail, il est valorisé.
Ah oui, il est très valorisé. Bon. Et heureusement, heureusement que j'ai mon travail. Hein, pour au moins avoir la reconnaissance. Et
avec cette femme, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi finalement ils se sont rencontrés il y a combien de temps?
Ils se sont rencontrés il y a 6 ans, en sortie, entre amis, en boîte. Fin...
Qu'est-ce qu'il en dit quand il est revenu chez vous, au fond de... il a peur, il parle d'emprise, comme si au fond il n'arrivait pas à se défaire de ce lien, même s'il sait qu'il est,
c'est ça,
qu'il est mauvais pour lui.
Voilà, oui. Il dit que c'est mauvais pour lui, il dit qu'elle est très, vétale, qu'il n'y a que l'argent qui compte. Il dit que il décrit beaucoup de choses d'extrême humiliation que j'ai vues aussi. Hein. Bon, elle a séparé de tous ses amis. Elle fait en sorte qu'il s'éloigne un peu de tout son monde, en fait.
Qu'est-ce qu'on dit votre autre enfant? C'est un garçon, une fille?
C'est ma fille qui est un peu plus élevée. Ma fille, elle est un peu plus âgée que lui.
Elle est au courant de ce que vit son frère?
Ah oui, on se tient au courant de tout, mais elle est loin.
Elle est loin, d'accord.
Donc, de temps en temps, il s'appelle. Dans les périodes où il revient chez moi, parce que sinon... Quand il est avec sa compagne, il n'y a pas de communication.
Oui, et le couple de tout le monde.
Oui.
Vous connaissez les parents de cette femme?
Oui. Mais je ne les vois plus du tout. Elle s'est fâchée avec sa mère. Et puis, sa mère, ça a été compliqué. Moi, j'ai eu confiance en elle. Je me suis même beaucoup occupée d'elle parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, quoi. Et j'ai été très déçue. À un moment, pour se raccrocher avec sa fille, elle a dit des choses sur moi qui étaient invraisemblables.
D'accord.
C'est un peu compliqué aussi. J'ai cru que c'était une amie, en fait. C'était pas une amie du tout.
Votre fils, vous allez le revoir, là, prochainement?
Oui. Enfin, j'espère, oui.
Bon. Vous vous sentez à même de lui parler?
Moi, j'ai envie de lui parler.
Oui, c'est important que vous lui parliez.
Ouais. Je préfère ça que... de faire directement quelque chose dans son dos.
Bon, alors vous lui parlez et vous lui dites en tout cas que dans un premier, vous amenez les choses par étapes et vous dites que lorsque c'était le moment de partir et que parce que on ne sait jamais, finalement on ne sait pas ce qui se passe, qui est l'auteur des faits, s'il repart, il faudrait pas non plus que dans un mouvement d'impulsion. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, au fond, voyez, qui a commis ça, qui s'en prenne à la petite, enfin, ou que la petite dise qu'elle, du coup, qu'elle parle plus. Allez-y par étapes. Et en me disant qu'en tout cas, au moment où vous l'avez ramenée, où vous avez voulu qu'elle voyait que c'était le départ, qu'elle s'est effondrée, qu'elle était totalement bouleversée, que vous ne l'aviez jamais vue dans cet état, et qu'elle vous demandait de les garder avec elle, qu'elle avait peur. Peur de retourner chez papa et maman. Et vous dites que, en fait, elle décrit la scène où il était poursuivi par le couteau, et qu'elle a peur. Et que là, déjà, vous aviez beaucoup d'inquiétude pour lui, en tant que maman. Mais malheureusement, vous voyez bien, il est adulte, vous ne pouvez pas le prendre par la main et l'obliger à quitter cette femme et à prendre soin de lui. Mais vous êtes aussi là une grand-mère, et qu'en tant que grand-mère, là, c'est impossible pour vous de laisser vos deux petites filles dans un climat de violence pareil et finalement dans une telle frayeur. Parce que c'est de la terreur derrière. C'est-à-dire que là, il faut lui dire ce que toi, tu vis, où tu parles d'être sous emprise. Toi, tu es adulte et tu fais le choix, même si actuellement, tu n'arrives pas à te libérer. Les petites, elles assistent à tout ça et c'est leur avenir qui est en jeu. Parce que ce sont des images traumatiques qui s'inscrivent là en elles. Et moi, en tant que grand-mère, je ne peux pas les laisser là, comme ça, sans réagir. Donc, maintenant, soit tu fais quelque chose pour les protéger. Si tu n'es pas à même de le faire, moi, je devrais le faire. En tant que mère et en tant que grand-mère. Vous vous sentez de le dire, ça?
Alors, je me sens de le dire, parce que j'ai envie de le dire, en tout cas. Et par contre, j'ai quand même... je vous avoue, j'ai un peu quand même la trouille qui me dit, bah, si c'est... déjà un pute, hein,
je ne crois pas, je peux me tromper, mais votre fils il sait que vous êtes là. Il y a quelque chose, certainement, il est dans une situation, au vu de, alors je ne sais pas, mais j'ai un message de Joseph qui dit, est-ce que cette femme, au fond, avec qui il est, a un lien qui pourrait évoquer sa mère biologique? Est-ce qu'elle est plus âgée? Est-ce qu'elle est quelque chose qui...
Non,
est-ce
ils ont le même âge exactement.
Parce qu'il y a quelque chose qui... je comprends ce que veut dire Joseph. Il y a quelque chose, évidemment, mais c'est une hypothèse, dans le rejet que lui inflige cette femme.
Oui.
Dans le rejet. Dans, finalement, derrière, se joue quelque chose d'une peur de l'abandon. Parce qu'il part, mais il y retourne. Mais il y retourne vers quelqu'un qui ne fait que le rejeter, le rabaisser, au fond lui dire qu'il ne vaut rien. Oui. Qu'est-ce qui se rejoue de son histoire, ou même si vous l'avez eu tout petit, ou dans sa tête, on sait que dans des thérapies, parfois d'enfants comme ça adoptés, il y a cette idée que s'ils ont été abandonnés, c'est parce qu'au fond, ils ne valaient pas grand-chose. Ou que leur mère, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du rejet qui peut se jouer, dont il n'est absolument pas conscient.
Je vais vous dire un petit truc en plus, parce que vous m'y faites repenser. Quand il était petit, il avait un peu des soucis de courbature, enfin, tout comme ça. Je l'avais emmené chez un ostéopathe. Et cet ostéopathe lui a dit, alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'était très difficile, il lui a dit qu'il avait un refus, que sa mère l'avait refusé, qu'il y avait eu un refus dans le ventre, qu'elle refusait d'avoir ce bébé dans le ventre, et qu'elle, je ne sais pas comment vous dire, que sa mère biologique, il y avait un refus de la part de la mère biologique qui ne voulait pas de lui.
Mais il n'a pas inventé la poudre.
Bah oui,
pardonnez-moi, mais enfin, évidemment, puisque, enfin, il connaissait l'histoire de votre fils.
Bah, il savait qu'il était adopté, c'est tout, quoi.
Ah bah oui, bah alors, vous voyez, c'est pour ça, c'est très malin d'aller dire ça, hein. Bah oui.
Je pense que ça lui a fait. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait mal.
Mais
je
c'est,
pense
c'est, mais fils, c'est, c'est terrible. Mais bien sûr, c'est terrible de dire des choses comme ça. C'est terrible. C'est de l'abus de pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il était là, lui. Donc ça, c'est au lieu de... Malheureusement, il y a des personnes qui vont au-delà de leurs compétences et qui jouent les apprentis sorciers.
le sujet, c'était pas le lieu.
C'était pas le sujet, c'était pas le lieu. Il y allait parce qu'il y avait une souffrance dans son corps. Oui. Et malheureusement, dans cette discipline, alors moi, il y a des ostéopathes qui sont extraordinaires. On se demande, on a l'impression que c'est de la magie, alors que c'est pas de la magie, c'est du travail et c'est de l'expérience et c'est une formation. Mais effectivement, ils peuvent vous dénouer physiquement, de façon, ils peuvent ressentir des choses, mais de là à jouer les apprentis sorciers, parce que c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que là, il lui balance une analyse sauvage, une interprétation, ce qu'on appelle une interprétation sauvage. Alors en plus, avec sachant que c'est un enfant adopté, allez lui dire « Ah ben oui, moi je sens votre mère, quand vous étiez dans son ventre, elle vous a rejeté. » Oui, de fait, effectivement, il a été adopté, c'est un bébé né sous X. Donc ça veut dire que la maman, la mère biologique, quand elle a accouché, avait à l'époque, d'ailleurs ça devait être 3 mois, aujourd'hui c'est 2 mois pour se rétracter.
C'est
donc
ça,
oui, une fille, et c'est des paroles terribles parce que finalement, qu'avait-il besoin de dire ? Elle ne vous voulait pas, voire même elle pouvait avoir des pulsions presque de mort vis-à-vis de vous. Ce qui n'est pas le cas. Puisque cette femme, elle n'a pas avorté à un âge où elle aurait pu le faire. Et puis, qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire de cette mère biologique qui fait que peut-être elle ne pouvait pas, vous dites que c'est un enfant d'origine algérienne, que peut-être dans un contexte où un enfant né hors mariage, eh bien c'était peut-être sa vie à elle qui était en jeu. Si la famille apprenait... qu'elle était enceinte. Donc il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations épouvantables. C'est pas tant le bébé, l'enfant qu'elle rejette, c'est l'opprobre familial ou social, c'est tout ce qui y va avec. Donc déjà un enfant, il y a une douleur de savoir cela, mais on sent aussi, moi ce qui m'importe en fait, c'est le lien extrêmement fort qu'il a avec vous, Marie. Et vous, il sent, et c'est ça, et je comprends mieux au vu de tout cela, parce que déjà c'est déchirant pour une mère, évidemment, d'aller porter plainte contre son fils, et j'entends au-delà de ça, vous êtes finalement, vous ne voulez pas être celle qui trahit aussi, ou qui abandonne. Je comprends ça. Je comprends très bien cela, d'autant plus que vous êtes là, vous ne le lâchez pas. Quoi qu'il arrive, vous l'aimez. Et c'est ça. Et ça, je pense que c'est pas rien que votre fils revienne vers vous. Donc, je crois qu'il faut lui dire, écoute, là maintenant, je m'inquiète pour toi beaucoup. Je t'aime et ça m'est insupportable de te voir dans cet état de souffrance. Et aujourd'hui, il y a mes petites filles aussi, parce que je suis aussi grand-mère. Et vous parlez pas des histoires de violence, vous dites qu'elles se sont effondrées et la petite disait qu'elle avait peur. Et dire, je peux pas laisser mes petites filles avoir peur. Et à ce moment-là, amenez-le, et peut-être avec votre psychiatre, ou dire, il faut que tu parles, il faut que tu sois aidée. Tu as besoin d'aide, en fait.
Il a déjà vu une psy il y a 2 ans, 2, 3 ans. Je lui avais conseillé parce qu'il y avait déjà entre en couple des problèmes. Et il est allé 3 fois. Et puis après, sa compagne lui a dit, t'as pas besoin d'aller voir un psy. Enfin, elle a forcément... Elle était contre ça. Donc
oui, c'est ça. Bah, évidemment, c'est très dangereux. Elle écarte de lui toutes les personnes qui pourraient avoir une influence sur lui. Donc évidemment, un psy, c'est le danger absolu. C'est le tiers, oui.
Mais on voit, mais
il y a quelque chose de très traumatique dans le lien qu'il a avec cette femme, qui finalement, cette femme ne fait que le rejeter. Il y a quelque chose qu'il s'impose, qu'il revit, et il faut absolument qu'il soit aidé. C'est ce que dit d'ailleurs Brigitte. Elle dit, c'est un petit SMS, hein, qui dit, votre fils attend très certainement que vous l'aidiez.
Oui, c'est
parce qu'il y a une demande d'aide quand il vient vers vous. Et finalement, ce qui est terrible pour vous, c'est comme là où elle est demandée très clairement par votre petite fille de 4 ans, au fond, il vient, ce qu'il ne peut pas faire lui, je pense qu'il attend que vous le faisiez, que vous le fassiez pour lui. Mais j'entends, il ne s'agit pas de le faire contre lui, il faut le faire pour lui. Et Brigitte ajoute, faites confiance à son amour aussi, à l'amour que vous lui portez, et à l'amour aussi pour ses enfants. Parlez bien du traumatisme que tout cela leur inflige. Et elle a raison, parce que ça, il peut y être sensible. C'est-à-dire dire, moi, en tant que mère, je m'inquiète pour toi. C'est insupportable de te voir souffrir. Et aujourd'hui, ce sont tes petites filles qui souffrent, dont il n'a pas forcément conscience de ça. Parce que lui, il est tellement pris dans son histoire chaotique avec cette femme qu'il est, il n'a pas, même s'il aime ses enfants, il ne voit pas la violence.
Non, que, parce que j'en ai
déjà parlé. Que ça leur inflige, voilà. Oui.
Je lui ai déjà dit, parce que pas de violence physique, je ne savais pas, mais en lui disant, tu sais, toi, ce que tu vis, c'est aussi des violences psychologiques pour tes filles. Et j'avais l'impression qu'il dit oui, mais il piche pas, quoi, enfin...
Non, et c'est-à-dire que, pour le moment, effectivement, je pense qu'il ne capte pas, parce qu'il est pris lui-même dans une relation extrêmement chaotique. Mmh. Donc, il n'arrive plus à être parent. Il est dans quelque chose de très problématique où il est happé dans cette relation qui le dévore. Il ne peut plus être un parent. Et intervenir, c'est aussi, évidemment pour lui, mais pour lui permettre de se réapproprier ce rôle de parent. Ce qu'il ne peut pas faire dans cette ambiance folle. Parce qu'on est dans quelque chose de fou quand on en arrive à ce qu'un conjoint poursuive l'autre avec un couteau. Et ça, il faut lui dire, je ne peux pas te laisser dans cette situation. Et je ne peux pas laisser mes petites filles dans cette situation. Et au fond, je pense que c'est ce qu'il attend de vous. Parce qu'il sait que vous, quoi qu'il arrive, vous êtes là et vous êtes une mère aimante et protectrice.
C'est pour ça que quand il était en colère pour la procédure, en sachant que c'était moi, je lui ai dit, mais tu sais, s'il arrivait quelque chose à tes filles, je pense que tu agirais peut-être encore plus vite et plus fort que moi. Donc ce que je fais, c'est par amour, c'est pas... voilà. Et il a compris, hein, quand je lui ai dit ça, il est parti, mais il a compris que c'était par amour que je faisais la procédure, c'était pas...
Oui, je pense sur le moment, il est fâché, mais il vous ramène ses petites filles et il le comprend au fond.
Et là, ce que j'ai... Alors, j'ai envie de le faire, hein, enfin, je suis vraiment d'accord avec vous, ça me soulage même que vous me disiez ça comme solution. Après, vous pensez qu'il n'y a pas de risque que... Enfin, qu'il arrive quelque chose aux filles, ou qu'il s'en prenne aux filles, tout simplement qu'il ne veuille plus que ses filles me voient, ou quelque
chose comme ça. Je ne crois pas.
Ni violence, ni...
Non, d'abord, je vous dis, allez-y par étapes. Vous dites bien, vous parlez, vous parlez pas, vous dites, au moment où j'ai amené, vous dites, la petite parle de cette scène, elle en parle du couteau, et elle a eu peur, et elle voulait rester avec moi, et elle dit, j'ai peur. Chez papa et maman, j'ai peur. Vous reprenez ces propos. Et dire, je ne peux pas, comme je n'aurais jamais accepté, vous pouvez dire à votre fils, que quelqu'un te fasse du mal. J'ai toujours été là pour toi. Et je ne peux pas accepter que mes petites filles grandissent dans une ambiance qui leur fait du mal. Et dans une ambiance où, alors qu'elles ont besoin de protection et de sécurité, elles vivent dans la peur et même dans la terreur. Parce que toi, tu es trop mal pour pouvoir les protéger. Mais tu vas y arriver. Mais il faut que tu te fasses aider.
Oui, je fais comme ça.
Vous voyez, il faut vraiment vous parler en tant que mère et en tant que grand-mère. Parce que la responsabilité, elle est de cet ordre-là. Et je pense qu'il pourra entendre ce discours-là. Et qu'au fond de lui, c'est ce qu'il attend de vous. Que vous agissiez pour lui qui n'est pas en mesure de le faire, pour le protéger de lui-même finalement.
Ben c'est ça.
Le protéger de lui-même.
Ouais.
Il y a Joseph qui ajoute d'ailleurs, il dit c'est très bien au fond qu'il sache que c'est vous qui avez déclenché la procédure. Parce que derrière tout ça, ça veut dire qu'il peut compter sur vous et que vous êtes là et que vous n'accepterez pas que quelqu'un lui fasse du mal. Pas plus que vous n'acceptez que l'on puisse faire du mal à vos petites filles. Et Joseph dit, et après tout, pourquoi ne pas lui proposer de faire la démarche avec vous ?
Je le sens, enfin, je peux, mais...
Ça pourrait être une seconde étape.
Je le sens pas prêt, mais...
Moi, je ne crois pas que ça cassera le lien. Ce qui pourrait... Finalement, votre fils s'interrogerait si... Parce qu'il doit se dire, au fond, elle sait... C'est terrible pour vous, parce que vous savez, mais vous laissez tout le monde dans cet enfer. Enfin, ce qui n'est pas vrai, hein. Dans les faits, vous avez réagi, et vous avez agi. Et vous avez agi en tant que mère, et là, c'est en tant que grand-mère que vous êtes interpellée.
Ouais.
Et votre fils peut être sensible à ça, parce qu'il y a de l'enfance en lui qui rejaillit, de façon extrêmement inconsciente et douloureuse. C'est pas rien de rester dans une telle relation de rejet. Il rejoue, à mon avis, quelque chose. Et il faut qu'il consulte. Il faut l'amener à consulter, à nouveau. et à se réfugier chez vous, et à se réfugier chez vous à nouveau. Voyez, je crois qu'il va revenir chez vous avec les petites. Et il faut l'encourager à le faire. Dire, tu sais que moi je suis là. À tout moment, tu viens avec les petites. Et ensemble, on va y arriver. Et tu vas te sortir de cette emprise. Il a besoin de vous en tant que maman aussi. Maman solide sur laquelle il peut s'appuyer. Paul, des réactions, j'imagine, parce que le témoignage de Marie est bouleversant et c'est une situation... évidemment très complexe.
Oui, ça a vraiment chamboulé beaucoup de monde. Il y a Sylvie qui dit que cette situation doit faire l'objet d'un signalement, au moins pour éclaircir la situation. Mmh. Vous pouvez vous rendre dans un centre départemental d'action sociale et aussi en parler au service de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Il y a Aïssa qui dit, à vous entendre, vous semblez vraiment être à la hauteur, Marie.
Oui.
Permettez-moi juste de rappeler le 119, puisque c'est l'occasion. Le 119, qui est un numéro, qui est le numéro d'appel d'urgence de l'enfance en danger, qui est gratuit, qui est anonyme, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous êtes victime, témoin de maltraitance sur un enfant, vous pouvez l'appeler et vous pouvez aussi aller sur www.allo119.gouv.fr.
Merci pour ces réactions, Paul. Je crois que vraiment, la prochaine fois là, que vous le voyez, ou vous, il faut en parler et incitez-le. Il faut l'éloigner à nouveau. Il a su à un moment venir chez vous. Et vous, du coup, ça va vous permettre de reparler, de dire, je sais que tu m'en as voulu sur le moment, mais au fond, si j'ai fait cela, c'est pour te protéger. Parce que c'est insupportable de voir que tu souffres autant et que tu n'arrives pas à te sortir d'une situation qui te fait du mal et qui fait aussi du mal à tes enfants, à mes petites filles. Ça se dégrade, oui. Et au fond, vous savez, dans quelques temps, là où il vous sera reconnaissant de ça. Parce que ce qui serait terrible, en fait, Marie, c'est de savoir tout ça et de ne rien faire. C'est-à-dire qu'au fond... Ça voudrait dire que vous aussi, vous l'abandonnez.
Ah ben non.
Si vous n'aviez rien fait. Or non, vous ne l'abandonnez pas. Bah oui, non. Oui. Vous, vous êtes là et vous êtes celle qui ne le lâchera pas, jamais. Mais ça veut dire que là aussi, vous êtes grand-mère, qu'il y a de tout petits enfants en jeu et que ces vos petites filles, vous ne pouvez pas les laisser grandir dans la terreur.
Non, c'est déjà beaucoup ce qu'elles ont vu. Hein,
oui, c'est trop. Et dire, et c'est important qu'elle puisse aussi voir quelqu'un. Je pense qu'il pourra entendre votre discours, parce qu'il y a beaucoup d'amour derrière, et de protection, et c'est ce dont il a besoin. Il y a Brigitte qui dit, il a de la chance de vous avoir. Vous ne le lâchez pas. Elle dit alors, ayez confiance en vous et en lui. D'accord ?
Je me dis, ce que j'ai vu, en me disant que j'ai déjà tout fait, mais vous voyez, il y a vraiment...
Je vous perds.
Continuez. Allô ?
Oui, je vous entends moins bien. Écoutez, Marie, faites-vous confiance et faites-lui confiance aussi.
Monde.
Et puis n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles.
Oui,
si vous le souhaitez, bien sûr.
Oui, d'accord. Merci beaucoup à vous.
Bon courage.
Merci Caroline, merci Paul.
Au revoir, Marie. Au revoir.
Au revoir.
Benjamin Biolay y est en duo avec Adé. Adé, c'est la chanteuse du groupe Thérapie Taxi. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Et puis, on se retrouvera bien sûr ce soir sur RTL à l'horaire habituel, 22h.